chacun est transformé par le fait qu'il est entouré par les autres. Et cette qualité des liens qu'on arrive à tisser ensemble, c'est peut-être ça que l'on peut appeler « je » quand on est Jésus-Christ, et appeler « Dieu » si on en a envie. Mais pour moi, Dieu est un mot tellement lourd que je préfère pas l'employer. J'aime mieux dire, dès que je suis avec d'autres, avec, mais pas contre, qu'il se crée un échange. Il est un mystère en face de moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans lui. Je suis un mystère en face de lui. Et pourtant, entre ces deux mystères, qui se connaissent mal, mais qui quand même sentent quelque chose en commun, quelque chose existe qui nous transforme. On peut appeler ça Dieu si on veut. Ici Albert Jacquard. Pour la troisième fois de ma vie, je suis à la prison de Bordeaux. Pour la deuxième fois, je suis reçu par les souverains anonymes. Dans cette pièce que je retrouve après 18 mois, avec des gens nouveaux, bien sûr, qui m'accueillent avec le même enthousiasme, avec le même dynamisme, et je sens la même ferveur. Si bien que je n'ai plus qu'un désir, c'est de revenir une troisième fois. Mais un désir encore plus profond, que je n'ai un jour plus du tout à y revenir, parce que la prison de Bordeaux sera vide, et que même on aura remplacé la prison de Bordeaux par de magnifiques petits pavillons où pourront vivre des gens en liberté.
Mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je vois là? C'est lui en personne! Non, ce n'est pas Albert Einstein! Non, ce n'est pas Albert Camus non plus! C'est mieux que ça encore, c'est Albert Jacquard. Salut Albi, bienvenue parmi les souverains anonymes.
Salut Albert, c'est Bigoud.
Salut Albert, c'est le gros.
Salut Albert, c'est Jean-François, bienvenue aux souverains.
Salut Albert, François Gagnon, je te souhaite tout le bonheur possible et une bonne participation.
Salut Albert, je m'appelle MC Bass.
Salut Albert, c'est Benoît, bienvenue aux souverains.
Salut Albert, filouche que dans les eaux, Layo.
Salut Albert, grand de ce monde, bienvenue aux souverains anonymes de Danny.
Word up, I will fade out.
Vous avez écouté une pièce avec le tablaïste Guy Thouin et son groupe Le Heart Ensemble à la sitar Ivan Green. Vous écoutez la première partie de cette deuxième rencontre entre les souverains anonymes des détenus de Bordeaux et Albert Jacquard.
Bonjour Albert, moi c'est Danny. J'étais ici dans la dernière rencontre que vous êtes venus. Je suis encore ici, mais j'espère pas être la prochaine que vous venez. Ça fait plaisir de vous voir encore une fois. Albert, il y a 3 semaines, aucun souverain, sauf quelques-uns, ne savait qui est Albert Jacquard. Mohamed nous a parlé tellement de toi, on a vu des entrevues de toi, on a écouté ta première rencontre avec les souverains et on a aussi pris connaissance de ton dernier livre absolu co-signé avec l'abbé Pierre. Nous pouvons donc maintenant te tutoyer. C'est notre façon de briser la glace. Albert, Nous savons qu'à l'âge de 9 ans, tu as échappé à la mort. Depuis, la vie pour toi est un cadeau. Mais Albert, tu sais bien que la vie n'est pas toujours un cadeau. Il faut la gagner, il faut la mériter. La vie est plus souvent en mauve qu'en rose. Albert, si l'absolu devait porter une couleur, ce serait laquelle?
Oh, pour moi, ça serait le bleu de la mer. Le bleu de la Méditerranée.
Pourquoi le bleu de la mer?
Pourquoi la mer bleue? Parce qu'il se trouve que je suis français et je suis méditerranéen. Et la Méditerranée, pour moi, c'est la source de beaucoup de choses. Tout ce que j'ai appris, finalement, tout ce qui a nourri ma réflexion, ce sont des réflexions qui viennent de gens qui ont vécu autour de la Méditerranée. Que ça soit Jésus-Christ, que ça soit Socrate, que ça soit Platon, que ça soit Akhenaton, tous ces gens-là ont vécu autour de la Méditerranée. Et la Méditerranée, c'est un pays chaud. Et quelqu'un a fait la remarque suivante. Il y a 10 000 ans, quand on a commencé à construire des maisons, ces maisons étaient sombres, car on n'avait pas encore inventé le verre. Elles étaient sombres un peu partout, sauf autour de la Méditerranée, où le ciel est merveilleusement clair. Si bien que, pour moi, la Méditerranée, c'est le pays de la lumière. Et la lumière, c'est plutôt l'évocation du jaune, du désert. Mais au cœur de ce jaune, il y a le bleu de la mer. Si bien que je viens, il y a 3 semaines, de participer à un colloque qu'on avait organisé à quelques amis pour créer la communauté culturelle méditerranéenne. Et on y a même distribué un passeport, un faux passeport, que j'ai avec moi. C'est le passeport de la Méditerranée. Et je disais ce matin à des Québécois, vous autres les Québécois, vous êtes des Méditerranéens. Bien sûr, vous semblez être à pas mal de kilomètres de la Méditerranée, mais dans vos têtes, tout ce qui vous a appris à réfléchir, tout ce qui a provoqué en vous des angoisses ou des espoirs, pour beaucoup, ça vient de la Méditerranée. Alors, de même que moi, je suis un Européen méditerranéen, vous autres, les Québécois, pourquoi vous n'accepteriez pas d'être des Américains méditerranéens? Ça peut sembler paradoxal, mais au fond, quand vous réfléchissez, quand vous raisonnez comme Platon ou comme Socrate, quand vous avez des crises de mysticisme, vous pensez à Dieu comme Jésus-Christ ou comme Mahomet, tous ces gens-là, c'était des Méditerranéens. Si bien que vous êtes des Méditerranéens, le prenez pas comme une injure, pour moi c'est un compliment. Alors, un beau jour, si vous le voulez, on vous donnera votre passeport de la Méditerranée, appartenir à une communauté culturelle. Vous savez, en Europe, il y a la communauté économique européenne qui permet aux Allemands et aux Français de ne plus s'entretuer. Eh bien, il faut une communauté culturelle de tous les Méditerranéens qui devrait nous permettre aussi de plus nous entretuer. Or, on s'est toujours battu, les Français contre les Algériens, les Palestiniens contre les Israéliens, etc. Il est temps que ça s'arrête. Alors voilà pourquoi, pour moi, la couleur de l'espoir d'une humanité un peu différente, c'est le bleu.
Bienvenue à Souverain Anonyme. Albert, la première phrase du livre Absolu, citée par l'abbé Pierre, dit que l'absolu est le genre de sujet devant lequel il faut se taire. Or, vous avez tous les deux tellement parlé de l'absolu. Cela a donné un livre de 181 pages. Votre prétention n'était peut-être pas d'expliquer clairement ce que veut dire l'absolu. Mais ne croyez-vous pas qu'une retraite dans le bois vous aurait rapproché de l'absolu?
Mais la question est très pertinente. Hein. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai quelques minutes pour raconter. Hein. J'ai rencontré l'abbé Pierre pour la première fois il y a 3 ans à l'occasion d'un squat qu'on avait fait, où on avait installé sur un terrain de la ville de Paris, en plein Paris, on avait installé des tentes pour des gens qui étaient sans logement. Et il fallait que des gens qui risquaient pas grand-chose viennent pour appuyer ça. Alors j'y suis allé, et l'abbé Pierre y est allé aussi. C'est là qu'on s'est rencontrés. Alors du coup, on a travaillé un petit peu ensemble, on s'est retrouvés dans d'autres occasions où il s'agissait de loger des gens. Et puis, entre nous, on a discuté un peu. Mais moi, il m'impressionne beaucoup. C'est un homme avec qui j'ai beaucoup de peine à discuter parce que j'ose pas le contredire. J'aurais honte un peu d'être pas d'accord avec lui. Et pourtant, je suis pas toujours d'accord. Alors, il se trouve que un éditeur nous a dit « Vous devriez faire un livre ». Je m'en suis senti incapable. Et on a demandé au troisième larron, Hélène Amblard, qui est une journaliste, de provoquer le dialogue. Alors, Hélène et moi, on allait le dimanche matin à Esteville. L'abbé Pierre vit dans un tout petit village près de Rouen, qui est à 150 km de Paris, dans une maison vraiment pas riche, hein, où se sont installés tous les vieux de la société Emmaüs qui a travaillé avec l'abbé Pierre. Et ceux qui sont à la retraite sont là. Et lui, il en fait partie, il est là. On y arrivait le matin, et dès qu'il sortait de dire sa messe, il nous recevait, on discutait le coup pendant une heure et demie, deux heures, il allait déjeuner et faire sa sieste, et on reprenait de 3h à 6h. Et on a fait comme ça, 6 ou 7 dimanches, une rencontre. Et c'était Hélène, donc journaliste, qui avait fait vaguement un plan et qui provoquait le dialogue. Et dès le départ, elle nous a dit « De quoi vous allez parler ? Pas de vos actions de tous les jours. Il n'y a qu'un sujet qui vaille, l'absolu. » Alors, aussi bien l'abbé Pierre que moi, on s'est dit « On est incapable d'en parler, l'absolu, on ne peut rien en dire. » Mais essayez donc quand même. Alors, ce livre essaie d'être aussi honnête que possible et de retracer ce dialogue qu'on a eu. Si bien que ça donne un livre qui n'est pas facile du tout à lire. Surtout le début, ça ne se lit pas bien. Parce que ça reflète l'état de nos dialogues qui, au début, n'arrivaient pas à se nouer. Ce sont deux monologues. Et puis, on n'arrivait pas à parler l'un avec l'autre. On parlait l'un à côté de l'autre. Et puis, progressivement, en grande partie grâce à Hélène qui nous engueulait tout le temps. « Mais non, mais Albert, veux-tu bien répondre à Pierre ? Pierre, veux-tu bien ?» etc. Et du coup, c'est venu peu à peu. Et au fond, on n'a pas vraiment parlé d'absolu. On a parlé de notre quête personnelle d'absolu, qui est jamais assouvie, qui peut jamais se terminer. Alors, pour se rapprocher de l'absolu, moi, je serais d'accord avec toi, mais ce n'est pas dans une forêt que j'irais, moi. C'est dans un désert. J'ai un souvenir tellement émerveillé du désert du Sahara que j'ai traversé quelquefois. Dans le désert, on devient quelqu'un d'autre. C'est dans le désert que j'ai pensé à l'absolu, moi. Dans le désert, surtout la nuit, quand il n'y a plus rien qui bouge, quand il n'y a plus que les étoiles et toi au milieu du monde, on a une sensation extraordinaire. Moi, une de mes sensations, c'est d'avoir compris la fin du Petit Prince. Vous avez tous lu ce petit livre de Saint-Exupéry, hein, Le Petit Prince. À la fin, parce qu'il faut bien qu'il y ait une fin, il se fait piquer par un serpent et il s'envole. Et j'ai eu le sentiment, moi, je n'ai pas été piqué par un serpent, mais un sentiment tripal, pas intellectuel. Hein. C'était dans mes tripes, je vais m'envoler. Pourquoi ? Parce que tu es sur un plateau, il n'y a que des cailloux, il n'y a aucun relief, et il y a les étoiles au-dessus. Et tu as l'impression d'être un peu comme provisoirement appuyé sur cette terre, mais tu ne te sens pas tellement lourd sur cette terre. Et les étoiles, elles t'attirent. Et tu te sens attiré par les étoiles. Et encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose qui se passe dans ta cervelle, ça se passe dans tout ton corps. Tu te sens attiré par les étoiles, et tu as peur. En même temps, tu es joyeux, tu es bien. Et c'est ça. Pour moi, la rencontre de peut-être, pas l'absolu, mais la rencontre de l'interrogation sur l'absolu. Mais maintenant, il y en a d'autres pour qui ça sera des forêts. Hein.
«
Sylvain Langlois au saxophone, à la guitare, Evan Green, le Heart Ensemble. Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de bord de rencontre, Albert Jacquard.
Salut, mon nom c'est Juan. Ma question est courte, mais peut-être pas simple. L'absolu est-il pas Dieu?
C'est pas simple. Tu m'avais prévenu. Voilà, Dieu. On prend un mot. Hein. Si on a dit absolu, c'est pour ne pas dire Dieu. C'est une fuite devant le mot Dieu. Un jour, justement, dans une de ces rencontres, Hélène a dit à l'abbé Pierre, Hélène, il faut le savoir, elle est communiste, elle est athée. Bon, à part ça, elle est très bien. Ou même y compris ça, elle est très bien. Et elle dit à l'abbé, Pierre, franchement, tu crois en Dieu, toi ? Mais un peu en ricanant. Et l'abbé Pierre nous a dit, c'est pas des mots que j'emploie. Qu'est-ce que ça veut dire, croire en Dieu ? Il nous dit simplement, je sais qu'il y a un monde autour de moi, que ce monde existe, et dans ce monde, je sens de l'amour. Alors le mot Dieu, pour moi, c'est le mot amour. Et quand on dit Dieu est amour, on ne le trahit pas. Mais quand on dit Dieu est ceci, cela, on le trahit, quel que soit le mot qu'on met à la place d'amour. Alors moi j'ai écouté, comme vous venez de le faire, c'est une phrase de l'abbé Pierre, ça, presque mot pour mot. Et le mois suivant, quand on y est retourné, j'avais eu le temps d'affûter un peu mes questions. Alors je lui ai dit, alors mon père, Hélène l'appelle Pierre et moi je l'appelle mon père, je ne peux pas l'appeler Pierre, moi. Et je le vous vois. Alors mon père, pour vous Dieu est amour, je remplace amour par un autre mot, on abîme, oui. Alors si on dit Dieu est créateur, on l'abîme. Et il m'a dit oui, Dieu est mieux que créateur. Et au fond, créateur, à quoi ça sert? Et depuis j'ai lu... Et j'ai travaillé un peu avec un dominicain, vous savez, un homme de foi, hein, catholique, qui vient de sortir un livre très agressif vis-à-vis du Vatican, où il dit qu'il faut se débarrasser du dieu monothéiste barbu qui est une idole. Le dieu des cathédrales, c'est une idole. Les idoles, il y en a marre. On n'a pas besoin d'idoles. Dieu, on n'a pas besoin qu'il soit créateur. Dieu, on n'a même pas besoin qu'il soit tout-puissant. Car s'il est tout-puissant, pourquoi il y a toute cette saloperie autour de nous ? Alors, qu'est-ce qui reste à Dieu quand on fait de lui autre chose qu'un créateur et qu'un tout-puissant ? Eh bien, il reste l'essentiel. Il reste l'essentiel qui est la qualité des rapports entre les hommes. Et là, bon, il y en a parmi vous qui ont dû lire l'Évangile quand ils étaient petits, etc. Moi, je viens enfin, à 69 ans, 68 ans, de comprendre une phrase de l'Évangile qui, tout d'un coup, prend du sens pour moi. Je l'avais lue 100 fois, puis je m'en foutais. Et tout d'un coup, elle vit. Cette phrase, elle a été dite, je crois, le soir du jeudi saint, là, après la scène, hein, la fameuse scène, où Jésus dit à ses disciples, aux apôtres, « Lorsque vous serez réunis, je serai parmi vous. » Et à ce moment-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce « je » qui prétend être là quand nous sommes réunis ? Qu'est-ce qu'il y a quand on est réunis ? Mais ce qu'il y a quand on est réunis et qu'on s'écoute, comment on s'écoute là ? Il y a quelque chose de plus que chacun d'entre nous. Il y a non seulement lui et lui et lui et moi. Il y a la qualité des échanges qui se créent. Il y a la qualité des regards. Il y a le fait que chacun est transformé par le fait qu'il est entouré par les autres. Et cette qualité des liens qu'on arrive à tisser ensemble, c'est peut-être ça que l'on peut appeler « je » quand on est Jésus-Christ, et appeler Dieu si on en a envie. Mais pour moi, Dieu est un mot tellement lourd que je préfère pas l'employer. J'aime mieux dire, dès que je suis avec d'autres, avec, mais pas contre, qu'il se crée un échange. Il est un mystère en face de moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans lui. Je suis un mystère en face de lui. Et pourtant, entre ces deux mystères, qui se connaissent mal, mais qui quand même sentent quelque chose en commun, quelque chose existe qui nous transforme. On peut appeler ça Dieu si on veut.
Alors, dis-moi comment un grand homme de science comme toi peut s'intéresser à quelque chose qui n'est pas scientifique.
Ben, tu sais, un scientifique qui ne s'intéresse qu'à ce qui est scientifique, il ne va pas être bien riche. La science, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux, mais ça ne remplit pas une vie. Qu'est-ce que c'est la science ? La science, c'est un essai de compréhension du monde. C'est tout. Un essai qui n'aboutira jamais. Le plus bel exemple, c'est celui au fond du Soleil. Les premiers hommes, il y a 200 000 ans, ils ont vu une boule de feu. Elle monte, elle descend. Le lendemain, une autre boule de feu. Et tous les animaux voient ça. Les hommes, parce qu'ils étaient des hommes, se sont dit, pourquoi cette boule de feu ? Alors, pour avoir une explication, ils ont imaginé que là-bas, loin, à l'horizon, il y avait un dieu, quelque part, qui fabriquait pendant la nuit une belle boule de feu, puis qu'il envoyait. Elle retombait. Bon, c'était pas si bête. Bon. Puis un beau jour, d'autres gens ont dit, mais non, c'est pas une boule de feu nouvelle à chaque fois, c'est toujours la même. Bon, on peut toujours y croire. Alors, mais qu'est-ce qu'elle fait pendant la nuit ? Alors, pendant la nuit, disaient les habitants de la Mésopotamie, elle s'enfonce dans la terre, elle réchauffe les sources, elle rebondit. Et ça expliquait pourquoi les sources paraissaient plus chaude le matin que le soir. Si tu vas te baigner dans une source, le soir, elle te semble froide parce que toi, t'as chaud. Tandis que si tu vas te baigner dans la même source le lendemain matin, elle te semble moins froide parce qu'il fait froid dehors. Alors cette sensation que la source était plus chaude, eh bien elle était expliquée par le fait que le soleil était passé dessous. C'était pas bête, il allait faire chauffer les sources. Ah. Bon, ça nous fait sourire, mais enfin, il faut bien trouver une explication. Un autre jour, ils ont dit, ben, le soleil il tourne dans l'air autour de la Terre. Puis maintenant, on dit, non, c'est pas le soleil qui tourne, c'est la Terre qui tourne. Bon, la science, c'est ça. C'est essayer, devant quelque chose que nous voyons, de nous poser des questions, d'inventer des réponses, toujours provisoires. Alors, aujourd'hui, ça a fait des progrès formidables, puisqu'on ne se contente pas de regarder les étoiles. On voit des étoiles qu'aucun animal ne verra jamais avec nos appareils. Et on voit même regarder, dans l'infiniment petit, des choses qu'aucun animal ne verra. Donc, nous sommes les seuls êtres vivants qui sachions même que le soleil existe, puisque pour les animaux, ce n'est pas un soleil, c'est une boule de feu. Et ils ne sont même pas sûrs que c'est la même. Ils ne se posent même pas la question, est-ce que c'est la même tous les jours. Donc voilà ce que je trouve merveilleux dans la science, c'est que je suis là, moi, je regarde le monde, je me pose des questions, pourquoi c'est bleu, pourquoi ça, et puis un beau jour, je réponds. Par exemple, vous savez que la fameuse question, pourquoi la nuit est noire? Peut-être que Hubert Reeve vous en a parlé de ça, non? Pourquoi la nuit est noire? Il y a plusieurs siècles, quelqu'un, je ne sais plus oublier son nom, se disait, comme le monde est infini, dans n'importe quelle direction, je vais rencontrer une étoile. Par conséquent, je devrais voir toutes les étoiles. Et par conséquent, la voûte, la nuit, devrait être complètement lumineuse, puisqu'il y a des étoiles dans toutes les directions, si on va assez loin. Pourquoi est-ce que la nuit est noire? Bien, la réponse, on l'a trouvée qu'il y a 60 ans. C'est pas si vieux, à cause du fait que il y a l'expansion de l'univers. Mais avant, il n'y avait pas d'explication au fait que la nuit soit noire. Bon, mais on posait la question. Alors, voilà ce que c'est pour moi la science, ce jeu formidable avec notre intelligence, de se poser des questions, donner des réponses. Elles sont bonnes un moment, puis un beau jour, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas tout à fait assez bonnes. On recommence. Mais tout ça, c'est vraiment un jeu qui ne correspond pas à l'interrogation fondamentale. Et moi, là, au milieu, qu'est-ce que je suis? Pourquoi est-ce que je vais mourir? La mort, c'est quoi? Etc. Là, il n'y aura jamais de réponse. Si bien que tout scientifique est aussi un homme, et un homme ne se satisfait pas de la science.
Vous écoutez Souverains Anonymes, les détenus de bord de rencontre, Albert Jacquard. On revient après cette pause. Derrière des murs, café crème. Vous écoutez la première partie de cette deuxième rencontre entre les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux et Albert Jacquard.
Albert, je n'arriverai jamais à comprendre pourquoi certaines personnes se suicident. Est-ce que dans le suicide, il n'y a pas une part d'absolu que toute personne recherche?
Vous avez le chic pour poser des questions fondamentales, hein? Vous avez le chic pour poser des questions fondamentales. Eh oui. Bon, personnellement, bon, ça a été rappelé que j'ai cru voir la mort de près et que depuis, je suis émerveillé de penser que je vis, hein, de constater que je vis. C'est le plus beau cadeau. L'idée de m'arrêter volontairement, ça me semble fou, hein, invraisemblable. Je n'arrive pas à entrer dans la peau de quelqu'un qui se suicide. J'ai connu des gens qui se sont suicidés, qui... Pour moi, c'est... Je dis pas que c'est un scandale, c'est pire que ça. J'arrive pas à comprendre que ça puisse effleurer quelqu'un. Mais je ne juge pas, hein. Celui qui se suicide, vraiment, je pense qu'il était au bout du rouleau. Au bout du rouleau de ses interrogations, de ses demandes. Et qu'il n'avait pas ce qu'il demandait. Celui qui se suicide, il se dit que définitivement, ce dont il a besoin, il ne l'aura pas. Et c'est justement parce qu'il a besoin de choses qui dépassent tout, besoin d'absolu. Pour moi, le suicidé est quelqu'un qu'il faut beaucoup respecter. Il est allé au bout de sa quête. Il avait besoin d'absolu, c'est probablement une explication.
Salut Albert, moi c'est Michel. L'absolu est aussi impalpable et intouchable qu'un fantôme. Si tu crois en l'absolu, crois-tu au fantôme?
Il est fin, hein? Non, je crois pas au fantôme. Hein? Alors, c'est pas parce que deux choses sont si impalpables l'une que l'autre que l'une existe et l'autre n'existe pas. Par conséquent, non, vraiment, je crois pas au fantôme. Je crois pas à la résurrection telle que c'est personnel ça, hein, telle que la décrit l'Église catholique par exemple. Je crois que c'est pas comme ça que ça doit se passer. L'après la mort, je veux pas en parler parce que je ne suis bien incapable d'en parler, j'en sais rien. L'abbé Pierre, lui, pense que à sa mort, il aura une rencontre. Il ne parle que de rencontre et il a hâte de la rencontre. L'autre jour, il est allé voir un médecin, il se croyait très malade, il se croit toujours très malade. Il est allé voir un médecin qui lui a dit « Oh, rassurez-vous, vous vivrez centenaire. » Il a 82 ans. Il est rentré chez lui avec le vague à l'âme, avec la déprime. Je croyais que c'était pour bientôt et voilà qu'il faut encore attendre 18 ans. Bon, alors, parce que pour lui, la mort sera une rencontre. Bon, pour Hélène qui était avec nous, elle est athée, la mort c'est la fin, point. Puis, je ne veux pas imaginer autrement. Moi, j'en sais rien. Moi, je serais plutôt agnostique, comme on dit, que athée. Bon. Alors, du coup, moi, je crois vraiment pas aux fantômes. Par contre, l'absolu, tu l'as bien senti, c'est plus un mot. C'est une tendance vers. C'est un peu comme l'horizon. Je crois à l'horizon, il y a un horizon. Mais je ne peux pas aller le voir. Quand j'arrive, il n'y a plus d'horizon.
So listen up. I'ma tell you where it came from. Chilling on the corner, just having fun. In 79 is when we busted the first round. Too late now to turn the hands of town. Hit. Here I go again. Yo, my name is Bass. Stop talking shit about this place, unless you know, unless you've been a boy though. Stop, listen, yo, and ho, ho, ho. Keeping your heart from 6 to midnight. I'm a super rapping DJ called DJ Mike. Now go off and off to the break of dawn. Said you hop to the top to what you got on. Turn up the radio, listen to us. This is how we made them cost. Stomping the beats till they say, okay. This is how it happened from day to day, day to day. Ok, salut à Albert, je m'appelle MC Bass, puis moi c'est pas...
Tu parles anglais? C'est pas l'anglais?
Moi c'est pas pour te demander pour du rap, là, moi c'est une question...
C'est une question.
Albert, voici une question philosophique, métaphysique et un peu scientifique. L'absolu, ce mot à vie, se trouverait dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, mais pas entre les deux. En parlant d'infiniment petit, je donne comme exemple les neutrinos, qui nous parvient du soleil à la vitesse de la lumière. Les neutrinos, comme tu sais, sont tellement petits qu'ils traversent toute matière. Ah ben, est-ce que l'absolu ne serait pas composé de neutrinos?
Ah! Alors, il en sait des choses. Alors, les neutrinos, ben, vous savez, c'est un petit objet, là, qu'on peut pas voir, et dont l'existence a été imaginée dès les années 30. Quelqu'un a dit, je crois que c'était Pauline, un peu important, de ces grands physiciens, devant des expériences qui ne collaient pas bien, a dit, ça prouve qu'il y a une particule qui est partie, mais cette particule, elle n'a pas de masse, elle interagit avec rien, Alors, c'est comme ça que quand elle arrive sur la Terre, venant du Soleil ou venant de, d'ailleurs, elle ne voit rien, puisque quand on entre dans l'infiniment petit, un atome, c'est plein de vide. Alors elle traverse toute la Terre, comme ça, sans s'apercevoir qu'il y avait de la matière. Il n'y a pas de matière pour un neutrino. Si bien que, pour arriver à les déceler, il faut qu'ils tombent pile sur le noyau d'un atome. Alors, ça arrive une fois sur un milliard, évidemment. Donc on est tous traversés à chaque seconde par des milliards de neutrinos, mais ils s'aperçoivent même pas qu'ils nous traversent, et nous, on les ressent pas. Alors, du coup, effectivement, les neutrinos, ce sont des petites particules, à peine décelables, qui n'ont pas de masse, qui n'ont aucune, mais qui contiennent de l'énergie. Bon. Alors, pour moi, l'infini, ils sont à l'infiniment petit. De même, à l'autre bout, il y a l'infiniment grand, comme tu évoques. Pour moi, ces deux infinis n'existent pas en soi. On pourra toujours aller plus loin, hein, pratiquement. Et du coup, quand j'évoque l'absolu, j'évoque pas des choses concrètes. J'évoque un besoin intérieur. Pour moi, l'absolu, c'est un besoin. C'est un peu comme le mot transcendance. Il y a des mots comme ça. Ou le mot Dieu, comme ton camarade a évoqué. C'est des mots qui veulent rien dire, mais qui correspondent à un besoin intérieur. Alors, oui, l'absolu, c'est un besoin. Moi, je le ramène. Il n'est pas fait de neutrinos. Il est fait de mon exigence.
Sur la pochette du livre Absolu, on te voit à côté de l'abbé Pierre. Tu portes un sourire qui dit long sur ton admiration pour cet homme exceptionnel et combattant de toutes les injustices. S'il vous plaît, Albert, parle-nous plus de Pierre et de votre rencontre qui aboutit vers l'absolu.
Alors, j'ai un tout petit peu déjà évoqué. C'était donc quai de la gare à Paris, au bord de la Seine, près d'une grande gare. Et on avait donc installé là, sans une tente, qui venait de l'association Emmaüs, qui a été fondée par l'abbé Pierre il y a 40 ans. Et puis, les gens sont venus là, tous les gens qui ne pouvaient pas loger nulle part dans Paris venaient s'installer sous ces tentes. Et il a fait chaud, après quoi il a plu, il y avait de la poussière, il y avait de la boue, c'était dans des conditions vraiment pas agréables. Mais ça a duré au total 4 mois avant qu'on obtienne du gouvernement qu'il reloge plus ou moins tout le monde. Voilà. Et pour faire pression sur le gouvernement, il y a besoin, évidemment, de gens comme l'abbé Pierre, qui font peur aux gouvernants. J'ai vu un jour l'abbé Pierre téléphoner devant moi, depuis son minuscule petit bureau dans Paris, dans la banlieue, à un ministre, en lui disant « Monsieur le ministre, vous m'aviez promis une lettre pour ce soir et je ne l'ai pas. Et j'en ai besoin. » Ah, le ministre a répondu « Mon père, je vous l'apporte. » Et j'ai vu le ministre arriver une demi-heure plus tard avec sa voiture et son chauffeur pour apporter la lettre à l'abbé Pierre. Tellement il avait peur que le lendemain, l'abbé Pierre dise dans une radio « Vous savez, le ministre un tel, il tient pas ses promesses. » Ils ont une frousse terrible parce que l'abbé Pierre, il est populaire. Et les gens, ils sont pas à droite ou à gauche, ils s'en foutent, mais ils sont pour l'abbé Pierre. Et un ministre qui se fait mal juger par l'abbé Pierre, bon. Alors, il a un pouvoir formidable. Le vrai pouvoir, c'est celui-là. Hein? Alors, du coup, comme je l'ai raconté tout à l'heure, un jour, on était ensemble là, et il vient vers moi en me disant, on me dit que vous êtes connu, mais moi, je vous ai jamais vu, jamais connu. Il regarde pas la télé, hein. Et puis, jamais lu vos livres. Alors, oui, moi, je sais que vous êtes connu, mais quand même, je vous reconnais. Alors, du coup, on a parlé ensemble, on s'est retrouvés. L'année suivante, on a fait un autre squat, en plein cœur de Paris, où rien ne se passait. Alors, finalement, un beau matin, une belle nuit, Il me téléphone à 2h du matin, c'est ma femme qui a pris le téléphone. C'était drôle de fréquentation, il pouvait nous laisser dormir. Alors c'était l'abbé Pierre qui me téléphone en me disant « Il faut en finir avec ce squat, il faut absolument que les gens soient relogés. » C'était 20 ou 30 familles pauvres, évidemment. Alors voilà ce que je vous propose. Demain, je vais aller acheter une belle Légion d'honneur. Là, un grand cordon comme ça. Vous venez me chercher à la sortie du magasin. Je m'installe sur le trottoir. Je m'assieds par terre. Et je préviens que je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas relogé tout le monde. Alors, arrangez-vous pour qu'il y ait la télé, la radio, etc. Bon, il me tient une demi-heure. Après quoi, il me dit, j'arrive pas à dormir. Maintenant, je vais me recoucher et je vais pouvoir dormir. Seulement moi je me suis recouché mais j'ai pas pu dormir parce que il fallait que j'organise l'affaire du lendemain, téléphoner aux télé, aux radios, etc. Le lendemain, je vais le chercher l'abbé avec sa belle Légion d'honneur. On arrive devant notre squat, il y avait une foule formidable, il y avait toutes les télés, même des télés étrangères, des télés allemandes, des télés japonaises étaient là. L'abbé Pierre s'assied par terre, enfin sur une petite chaise, et dit « Je ne quitterai pas cet endroit tant que toutes ces familles n'auront pas été relogées, c'est un scandale. » Bon. Et au bout de 4 ou 5 heures, l'adjoint au maire de Paris est arrivé. On a obtenu que les gens qui étaient autour ne le sifflent pas, mais il a été accueilli dans un silence de mort. Et puis, il a promis de reloger tout le monde dès le soir même dans des hôtels qu'il paierait tant que ces gens n'auraient pas trouvé un logement. Et il y en a qui y sont encore depuis un an. C'est la ville de Paris qui paie l'hôtel. Bon, ça regarde la ville de Paris. Alors, j'ai vu là, puis avec l'abbé Pierre, on est rentré dans l'immeuble, etc. Bon, on s'est engueulé avec l'adjoint au maire, mais on était bien ensemble, si vous voulez. Alors du coup, moi j'ai eu une admiration sans borne pour cet homme qui à chaque fois sait agir. Vous savez ce qui lui est arrivé, c'était en 1954. En 1954, donc il y a 40 ans, et tout allait mal pour lui. Il était dans des conditions épouvantables, il avait donné tout ce qu'il avait comme fortune personnelle, il avait tout dépensé pour des gens sans logement, et puis même le moral y allait commencer à baisser. Il raconte l'histoire dans le bouquin. À un moment, un jour, il voit arriver quelqu'un qui lui dit « Je m'appelle Georges, je sors de prison, je cherche du boulot, j'en trouve pas, j'ai pas d'endroit où loger, j'ai pas un sou, monsieur le curé, faut faire quelque chose pour moi. » Réponse de l'abbé Pierre, « Moi je voudrais bien, mais j'ai rien, mon vieux, rien, 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 je peux pas faire quelque chose pour toi. Oh, moi j'ai plus qu'à me suicider, » répond l'autre. Bah, au fond, si tu n'as plus qu'à te suicider, t'as rien à perdre. Si t'as rien à perdre, viens donc nous aider. Parce qu'il s'en savait faire des choses, ce garçon. Alors, moi, je peux rien t'offrir, mais je peux te demander de venir nous aider. Le type est venu les aider. Il est resté dans la communauté d'Emmaüs et il est mort il y a quelques années. Il est resté jusqu'à sa mort. Le génie de l'abbé Pierre, ça avait été de dire à quelqu'un qui lui demandait quelque chose, lui dire « j'ai rien, je peux rien te donner, mais toi, tu peux me donner quelque chose ». Autrement dit, il lui avait fait le vrai cadeau, qui est de lui dire « tu es quelqu'un, j'ai besoin de toi ». Il avait renversé les rôles. Ben pour moi, c'est tout l'abbé Pierre, cette aventure-là. Il sait qu'il a besoin de tout le monde, il avait su le montrer. Et il a tout transformé.
tes livres, tu répètes souvent que la vie sur une autre planète est impossible pour l'homme. Moi, j'ai une autre théorie. Si l'homme est capable d'aimer plus qu'une seule femme, il serait capable de vivre sur plus qu'une seule planète. Albert, je ne te demanderai pas combien de femmes as-tu aimé. Je veux juste savoir si l'amour est possible sur une autre planète.
Alors, heureusement que je n'ai pas à répondre à la question que tu ne m'as pas posée. Hein? Mais, alors, je n'y réponds pas, mais il y en a au moins une, hein? C'est sûr.
Au moins.
J'ai dit au moins.
Au moins.
Oh, elle serait là, elle le sait bien. Hein? Ça n'a rien à voir, l'amour et la possibilité de vivre sur une autre planète. Alors, on parle d'abord des planètes, puis après on parle d'amour. Hein? Alors, on parle des planètes. Pour vivre sur une planète, les hommes ont besoin d'eau, d'air, un certain nombre de choses, hein, de terre. On sait que sur les planètes autour du Soleil, je parle que du Soleil, hein, les planètes autour du Soleil, il n'y en a aucune, semble-t-il, où on puisse vivre parce qu'il n'y a pas d'eau. Il reste un petit peu d'eau glacée, de glace sur Mars, très peu. Il n'en reste plus sur Vénus. Il y en a peut-être sur quelques satellites de Jupiter. Mais de toute façon, des hommes pourront aller s'installer pour quelques jours. Ils pourraient même, s'il y a des hommes et des femmes, ils pourront même y faire l'amour si ça les intéresse. Enfin, là, j'anticipe. Mais je crois qu'autour du Soleil, il n'y a pas de planète où l'humanité puisse se réinstaller une fois qu'elle aura abîmé la Terre. Maintenant, il y a un autre problème. Il y a d'autres planètes qu'autour du Soleil. Dans la Voie lactée, dans la galaxie, il y a 100 et quelques milliards de soleils. Sur ces 100 milliards, il y en a bien un de temps en temps qui a un cortège de planètes. Parmi ces planètes, il y en a bien une de temps en temps qui doit être un petit peu comme la Terre. Donc, presque tout le monde est d'accord, les astrophysiciens, qu'il doit y avoir une bonne cinquantaine de Terres, comme la nôtre, dans la galaxie Voie lactée. Par conséquent, il n'est pas du tout impossible que sur ces planètes, il y a une vie qui a évolué et qui a des gens, peut-être pas comme nous, hein, mais enfin, une forme d'intelligence. Bon, pourquoi pas? La preuve qu'on se pose la question, c'est qu'on envoie des messages et on dépense beaucoup d'argent pour écouter les messages qui viennent de l'univers. Et il y a vraiment aussi bien en France, aux États-Unis, sûrement au Canada, on écoute l'univers et on essaie de voir s'il n'y a pas de temps en temps quelque chose qui ressemblerait à un message. Bien sûr, on ne saurait pas le décoder, mais au moins, ça aurait une structure. Et jusqu'à présent, on n'a rien découvert. Dans ce qui nous arrive de l'espace, il n'y a que du bruit, il n'y a pas de message. Alors, il faut bien voir que, de toute façon, supposons qu'il y ait une planète où il y ait une forme d'intelligence, elle est peut-être à 2000 années-lumière. Alors, le temps qu'ils nous disent « Comment ça va chez vous ?» Réponse « C'est nous, ça va, et chez vous ?» 4000 ans plus tard. Bon, alors le dialogue va être dur. Et de toute façon, même si un jour on arrivait à communiquer comme ça, pour y aller, c'est pas possible. Tu te rends compte d'aller sur une planète qui est à 1000 années-lumière, même en allant à 30 000 km à la seconde, c'est quand même une bonne vitesse, on mettrait 10 000 ans. Alors on envoie un explorateur, 20 000 ans plus tard, il revient, tu sais. Bon. Par conséquent, pour moi, il n'y a pas d'autre planète accessible. Quant à l'amour, c'est tout à fait autre chose. L'amour, ça suppose qu'on vit, ça suppose qu'on est conscient, et ça suppose qu'on crée des échanges. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut échanger avec on peut échanger avec l'amitié, c'est une chose. On peut échanger avec l'amour, qui est une espèce de passion débridée qui fait qu'on donnerait tout pour l'autre. Voilà. Qu'on n'a qu'une envie, c'est de fondre avec l'autre. Ça n'a rien à voir avec les planètes. Il me semble. Mais je mets l'amour plus haut que l'astronomie, tu vois.
Bonjour, Albert.
Vous écoutez Sourins Anonymes, les détenus de bord de rencontre, Albert Jacquard.
Thank you.
Albert. Claude, pour vous servir. Je retiens le... OK, là... excusez-moi, là. Où est-ce qu'on est rendu?
Ah oui! C'est le beurre de pigeon?
À Bordeaux. Non? À Bordeaux, je me mélange avec le Bordeaux des vins en France. C'est pas le Bordeaux ici, c'est le Bordeaux de Parthenay, là, à côté de Parthenay. À Bordeaux, j'élève des pigeons, hein, dans ma fenêtre, dans ma cellule. Puis les pigeons, ils viennent pondre les œufs. Puis là, je les élève, puis là, je prends soin des petits pigeons. Puis là, on reste encore dans l'astrophysique, ça paraît pas, là. Mais une fois grandi, je les laisse s'envoler vers d'autres cieux. Mais vous, Albert, croyez-vous qu'il y aurait des pigeons sur d'autres planètes, mais pas de cellules? On reste en astrophysique.
Alors, j'ai un petit peu répondu. On sait qu'homme de science, je dis, ça m'étonnerait qu'il puisse y avoir des pigeons sur une autre planète autour du Soleil, en tout cas. S'il y a des planètes qui peuvent accepter des pigeons, elles sont trop loin pour que tes pigeons y aillent, parce que ça leur prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Si bien que toi aussi, tu peux vivre que sur la Terre. Mais la Terre est grande.
Non, mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de savoir s'il y avait une autre planète qui n'avait pas de cellules dans un autre système solaire.
Mais je crois pas.
Non, il y a des cellules sur toutes les planètes habitées.
Non.
Des prisons sur toutes les planètes habitées.
S'il y a une planète habitée quelque part,
ouais.
Il n'est pas du tout évident qu'il y ait des prisons.
Non, hein?
Ah non.
Nous autres,
on peut espérer que dans je ne sais combien d'années, il n'y aura plus de prisons sur la Terre.
Sûrement.
Écoutez, c'était le livre que je venais de sortir la première fois que je suis venu. J'ai eu à réfléchir avec des gens qui étaient en prison, etc. Il y a deux problèmes complètement différents. Il y a le problème de la punition de quelqu'un qui a fait une chose qu'il n'aurait pas dû. Bon. Et puis il y a le problème de la mise hors d'état de nuire de certains personnages qui sont vraiment dangereux. Les violeurs de petites filles, il faut bien évidemment se mettre à l'abri de ces gens-là. Bon, par conséquent, il y a un problème. Mais en France, il y a 50 et quelques mille prisonniers. Au pire, c'est 3000 personnes qui sont dangereuses, vraiment, parce qu'elles peuvent plus se retenir de tuer, de violer, etc. Par conséquent, on ne devrait pas mélanger deux problèmes différents. Le problème de la mise en état de nuire de gens effectivement dangereux, 3000 personnes, ça se résout d'une certaine façon. Et puis le problème de la punition de gens qui ont volé, qui ont fait ceci, qui ont fait cela. Il y a quand même d'autres solutions que la prison. Pour moi, la prison, c'est la pire solution.
Je suis l'exemple type, M. Jacquard, regardez-moi qui élève des pigeons, là. Hein, quand même.
Voilà, faut être un pigeon.
L'humanité est encore jeune. L'humanité est encore jeune.
L'humanité, de temps en temps, on a l'impression qu'elle est une gamine. Il est temps de faire la puberté de l'humanité. On est en pleine puberté, je crois. On est en train de vivre la puberté de l'humanité.
Infiniment merci Albert Jacquard d'être revenu rencontrer les souverains anonymes, les détenus de Bordeaux. Vous avez écouté la première partie de cette rencontre. La deuxième et la dernière partie, vous l'écouterez la semaine prochaine, aux mêmes heures et au même poste, où il sera question d'humanité, de liberté et bien sûr d'absolu. Cette émission a été réalisée avec la participation musicale du Art Ensemble avec Guy Thouin, Sylvain Langlois, Evan Green et Tobias Tinker. à la prise de son, Luc Desnoyers. Souverains anonymes, une émission de Mohamed Lotfi.
Noir et blanc dans le même système. Derrière des murs, quatre crèmes.